je passe tout de même des vacances. Moi, c'est bien, mes parents essaient de me consoler, me disent, tu sais, ça arrive, pour un garçon courageux, ça n'a pas l'importance, etc. Tu n'es pas mort. Bon. Seulement, en sixième, au mois d'octobre, je rentre donc dans une classe tout à fait nouvelle où j'apprends l'anglais, le latin, tout ça que je ne connaissais pas. Et le professeur de latin était un monstre. C'était un monstre, la BO. Il était gazé, paraît-il, de la guerre 14-18, ce qui explique peut-être. Il était fou, c'était un sadomasochiste, un homme absolument extraordinaire, je crois, unique dans son genre. Il fouettait les enfants, comme dans les meilleurs, bien pire que dans les romans du collège anglais, vraiment avec sadisme, avec fureur. Et il était fou. Alors, j'avais quitté le jaune, c'est, il me découvrait le rouge. C'était le rouge, c'était une figure rose, écarlate, que la fureur que le, rendait presque comme du sang noirci coagulé. C'était pour moi le mince. La première fois que je l'ai vu battre j'ai cru devenir fou. Hein. J'avais jamais vu ça. Bien sûr, à l'école communale, on donne des coups de règle sur la main, on tire l'oreille, éventuellement les plus audacieux donnent une plaque. Mais là, c'était quelque chose de forcené. Et tout de suite, ça a été la haine. Ce professeur voulait qu'on prononce les mots, puisque c'est un professeur de latin et de latin clérical. Il voulait qu'on dise « où » à chaque fois qu'il y avait « eu ». Il fallait dire « où ». Moi, je n'ai jamais pu. Je n'ai jamais pu dire où quand je voyais eu. J'ai pas le don des langues. Hein. Mais il y avait autre chose. Il y avait une sorte de crispation, une sorte de. C'est un blocage. Il se passait un blocage chez moi, devant ce type. Et ben, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire que de dégringolade en dégringolade, je me trouve au début du deuxième trimestre. En janvier, exactement, 31 janvier, on remet le bulletin de notes en fin de semaine, le carnet de notes, et j'ai un zéro. Encore un zéro, mais je ne voulais plus de zéro. Le zéro de l'année précédente avait suffi. Je ne voulais plus de zéro. Il s'est passé quelque chose d'insensé. Hein? Nous habitions ici la place Marceau, c'était ça à peu près. Et alors, il y avait la rue de Paris et la rue de Pornichet et le Saint-Louis était là, au bord de la Loire, à l'embouchure de la Loire. Alors, je suis né à rue de Paris, à rue de Pornichet, dans ce qui était du coin, le droit, légal, ordinaire, et les diagonales, je n'en parlais jamais parce que c'était la banlieue, c'était suspect, etc. Et ce jour-là, eh bien, j'ai emprunté pour la première fois. J'ai emprunté la diagonale. Je me suis arrêté au bord d'une fenêtre, j'ai ouvert mon carnet de notes, j'ai sorti une comme salve cartable, j'ai gommé le zéro, et j'ai écrit 7, ce qui est absolument extraordinaire. Parce que pourquoi pas 6 ou 9, n'est-ce pas? J'aurais aucune peine à changer de 0 en un 6 ou un 9. Non, j'efface le 0 et je mets un 7. Je trouve que c'est très très significatif. Et puis, j'arrive chez moi, bien sûr, on s'aperçoit tout de suite, ça aurait sauté aux yeux d'un aveugle, on s'aperçoit tout de suite que la falsification, qu'on ne comprend pas, bien sûr, parce que jamais j'avais été battu chez moi, et jamais j'avais rien à craindre, ou plus une petite remontrance ou une demande d'explication. Incompréhensible, mes parents ne comprennent pas. Et moi non plus, je ne comprends pas. Je dis, ah ben qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben ça c'est curieux. Ah ben je ne vois pas ce qui s'est passé. Oh, ça doit être, c'est le camarade qui devait nous remettre les carnets de notes, il l'a gardé, il m'a pas pris tout de suite, il l'a gardé, ben maman. C'est sûrement lui qui avait ça. Le camarade, vous l'avez peut-être deviné, c'était H. Parce que si j'avais pas copié sur lui en chemin précédent, lui il avait forcément copié sur moi. Bien sûr que ça tient pas le coup. Ça tient d'autant moins le coup que pour ne pas
ne pas dire que j'ai pris la diagonale.
Parce que j'ai surtout peur qu'on... Ah oui, j'ai oublié de dire, quand je faisais mon petit trafic sur mon carnet, une dame était apparue. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Alors, je voulais pas passer par, j'étais le témoin de mon crime. Donc, il n'était pas question que je sois passé par. Et j'étais revenu normalement par les voies rectilignes. Mais j'étais complètement fou, toute cette histoire est complètement folle. Je dis d'ailleurs, j'ai rencontré là l'APS, le professeur d'histoire, qui pourra vous dire que je suis bien passé par l'APS, évidemment, il ne m'a pas rencontré. Il était d'ailleurs à travailler dans sa chambre. Alors, accuser un enfant, un collègue, un camarade de mentir, bon, mais accuser un professeur de mentir, ben, bon, ça allait jusqu'où. Mes parents me croient, parce que je n'ai jamais menti. Et cela va durer 2 mois, de fin janvier jusqu'en avril, où je serai battu formellement, non seulement par la BO, mais par les camarades, qui avaient un moyen de se venger là, de l'étrangeté que j'en plantais pour eux, et puis qui on leur donnait la permission, il fallait me faire avouer. Or, moi, je n'avouais pas. Je cachais mes meurtrissures à mes parents parce que je ne voulais surtout pas. Il aurait suffi que je dise ça chez moi pour qu'immédiatement ça cesse, mais non, c'était, et je crois que c'est un fait de cinglerie pure, de folie pure, inexplicable, mais j'ai découvert depuis que bien des poètes, bien des artistes ont fait des choses analogues aussi absurdes. En réalité, je vous disais, le colonel Laurence tout à l'heure, il va s'engager à 17 ans en mentant sur son âge, il se réengagera plus tard en 22 en mentant sur son nom, il sera le colonel le soldat Ross, alors qu'il est colonel déjà, le colonel Laurence. Edgar Poe va raconter, il ne fait jamais raconter sa vie, mais sous couvert de contes, on reconnaît sa vie. Et il y a les aventures de Gordon Pym. Dans les aventures de Gordon Pym, il y a 3 naufrages successifs. L'enfant, parce qu'au début, c'était guère qu'un enfant, de 14-15 ans, embarque sur un petit bateau qui s'appelle l'Ariel. L'Ariel, c'est intéressant, parce que c'est le bateau sur lequel Shelley, le grand poète romantique, s'est noyé. Un peu avant, en 22. Lui, si tu sens 25 pour banquer. Son héros s'embarque sur l'Ariel. Et le naufrage est provoqué par l'ivrognerie de son camarade. Son camarade s'est saoulé et il ne peut plus diriger. Le héros, lui, ne sait rien de la navigation, c'est un enfant. Et il est noyé par la faute du vice du camarade. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Étant donné que ce vice alcooliste va poursuivre pour toute sa vie. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier pressentiment du fléau que peut être l'alcoolisme. Sauvé de ce naufrage, Gordon Pym s'embarque sur un autre bateau, le Grampus, et il s'embarque comme passager clandestin, c'est-à-dire dans le mensonge, dans la cache. D'ailleurs, son camarade le mettra dans la cale, loin de tout le monde. Et plus que ça, quand il va pour s'engager, il a revêtu un vieux cabestan, une vieille plante, puis il s'est mis même des lunettes, je crois. Voilà. Il s'est mis un autre visage. Il rencontre son grand-père, et le grand-père dit « Hey, Gordon, c'est toi ?» L'autre dit « Pardon, monsieur ?» Et le grand-père dit « Pardon, j'ai cru que c'était mon petit-fils. » Et le gosse est très content de son mensonge, de cet avoir réussi ce mensonge. Alors, il y a tout de même quelque chose de permanent. Pourquoi est-ce que le gosse ment? Pourquoi est-ce qu'à 12, 13, 14 ans, il éprouve le besoin de ce mensonge invraisemblable que depuis, on m'a souvent dit autour de moi, essayant de rappeler, mais oui, c'est vrai, ça a marqué mon enfance. Eh bien, je crois que c'est parce que l'enfant ne peut pas s'adapter aux dits des hommes, au discours des hommes. Il ne sait rien de lui, il est le non-dit encore de l'enfance, il porte le souvenir aigu de sa première enfance. Et il ne peut pas s'adapter, il ne peut pas concevoir qu'on préfère des discours à la réalité. Alors il s'exerce par là au discours. Il va créer un discours d'une espèce telle absurde, monstrueusement absurde, que s'il triomphe là, il a triomphé partout. Il va pouvoir triompher. Et notamment, il va pouvoir écrire lui-même, c'est-à-dire dire lui-même, c'est-à-dire être un poète. Et c'est peut-être pourquoi on trouve à l'origine de tant de vies des vies de poètes ce mensonge incroyable. Or, j'ai vaincu, ça a été dur, ça a été terrible, mais en avril, le professeur de musique, qui est une jeune femme, est rentré dans la salle où la BO me gardait après la classe, parce qu'il ne pouvait pas me déculoter devant toute la classe, puis il ne pouvait pas manifester sa folie et son vice aussi loin. Elle est rentrée dans cette salle, elle a vu ce spectacle, elle est sortie épouvantée, et immédiatement elle est allée avertir les autorités, le supérieur. Et le malheureux ABO, je ne lui en veux pas du tout. On l'a emmené à l'asile de Foulsa. Mais ce qui est tout à fait significatif, c'est que le supérieur a dit, quand il a reçu mes parents le lendemain, s'excusant, mon père surtout voulait apporter plein d'idées, c'est pas possible, mon fils ne reviendra pas un seul jour ici. Et le supérieur disait, écoutez, je ne sais pas quoi dire, c'est non seulement monstrueux, mais c'est absurde. Hein. Aucun enfant n'est si pervers. Aucun enfant ne tiendrait 3 mois de cette façon, c'est pas possible. Bien entendu que votre fils est innocent. Alors, c'était la victoire absolue. J'avais montré que le mensonge le plus absurde, le plus délirant, s'il s'accompagne d'un endurcissement. Endurcissement est un mot, était un mot de ma mère. Elle disait, les gens qui étaient à côté, des clochards, des gens débauchés, des gens qui buvaient, ils étaient endurcis dans le mal. Mais si vous êtes assez endurci dans le mal, le mal devient le bien. Et ça devient tellement le bien que je suis rentré après ça au collège laïque, brillant. Et j'étais dans un monde, c'était fini pour la BO, sinistrement, mais pour moi c'était pas fini, parce que j'étais un être à côté, j'étais autre chose. J'étais comme dans un désert. Et j'en donnerai cette preuve, la première composition, très peu de temps après mon arrivée à Briand, 8 jours après, composition de mathématiques, je n'y comprends rien. Soit parce que depuis 3 mois, je ne m'occupais plus de ce qui se passait en classe, bien sûr, mais peut-être aussi parce que l'enseignement laïque n'était pas tout à fait l'enseignement de Saint-Louis. Je m'en suis pas fait, je suis resté à mon banc, puis à la fin, j'ai rendu ma copie blanche en disant je ne sais pas ça, je ne connais pas ça. Et l'abbé qui était, le père Grosbois, il s'appelait Grosbois, qui était un brave rationaliste athée, anticlérical en diable, a dit ah ben c'est bien ça l'hypocrisie des cléricaux. Et ça a commencé comme ça, mon séjour à Briand. Mais j'étais à côté, j'étais en dehors, j'étais un petit peu inexistant. J'étais dans un monde à moi qui n'avait plus rien à voir avec le monde jaunâtre de Saint-Nazaire. Et puis j'ai trouvé Baudelaire, j'ai trouvé Rimbaud, j'ai trouvé Carpeaux lui-même, que j'allais lire 2-3 ans plus tard. Et je me suis ouvert à ce sentiment que si... Non, il y avait autre chose. Non, attends, je finis ça, parce qu'après je passe tout autre chose. Non, mais juste quelques minutes. Oui, j'ai donc vécu dans ce désert jusqu'à ce que, l'année suivante, juste un an après, en avril, 32 donc, je tombe sur un tout autre prêtre, la BN, je dirais, qui est une sorte de saint, et qui nous disait, il avait cette idée que j'ai rarement trouvée ailleurs aussi forte. Nous étions des petits gosses grands, un culte, hein, au point de vue religieux. Saint-Nazaire, place Marceau, paroisse Saint-Goire. Il nous disait, voyez-vous, on attend le Christ triomphant, le roi Christ qu'on enseignait un peu à Saint-Louis, hein, le Christ du directeur des Nouvelles Galeries. Et lui disait, non, si le Christ revient comme on l'attend, ce sera comme toute l'humanité. C'est toute l'humanité qui sera imprégnée du Christ. Et pour que ce soit possible, il faut que l'humanité aille sur la croix. Il faut que l'humanité se fasse le Christ sur la croix. Ce qui est attendu, ce que nous attendons, c'est ça. C'est qu'il y ait un tel amour chez tout le monde que qu'on souffre à mort des souffrances d'autrui, qu'on vive comme des dieux souffrants, bien sûr. Et cet homme m'avait bouleversé, et je lui ai dit, même pas en confession, j'avais fait ma première communion solennelle, en état de péché mortel. Puisque je n'avais même pas voulu en confession dire à un prêtre que j'avais fait. C'est-à-dire que j'étais damné pour l'éternité. Et j'ai dit à ce prêtre, voilà, je vais être damné pour l'éternité parce qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Il m'a dit, bon, ben, vous allez me le dire en confession et puis je vous donnerai l'absolution. Et votre deuxième communion sera sainte. Et j'ai dit ça à l'abbé, et l'abbé m'a dit, bon, si vous voulez vous rapprocher de la Sainte Table, il faut que vous disiez au moins à vos parents ce que vous avez fait, il faut que vous soyez libéré de ce fardeau qui vous accable depuis un an. Et j'ai donc dit tout ça à mes parents. Et il s'est passé cette chose terrifiante, et j'ai achevé là-dessus, que ça a été une cassure effrayante entre mes parents et moi, que rien, jamais, n'a comblé. Il s'est passé à ce moment-là la création, l'ouverture d'un abîme que rien n'a comblé. Vraiment rien. Parce qu'ils avaient découvert que je pouvais mentir. Parce que le petit ange blond, j'étais blond à l'époque. Chose que je ne savais pas combien j'étais noir par la suite. Eh bien, le petit ange blond, c'était un salaud, c'était un être impensable. C'était quelque chose. C'était quelqu'un qui avait fait quelque chose d'impossible. Que même les supérieurs, même les prêtres ne pouvaient pas croire, j'étais une sorte de monstre. C'est-à-dire que le mensonge m'avait donné un univers à moi, m'avait donné sans doute l'univers de la poésie, et que l'aveu me replongeait dans l'enfer.